Je lirai deux passages. Luc 4, verset 16. Et Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, il avait grandi. Et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume, se leva pour lire. On lui donna le livre du prophète Ésaïe. Ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant employé le livre, et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit. Et puis nous lirons dans l'Épître de Jude. Épître de Jude. Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, aux appelés, bien-aimés en Dieu le Père et conservés en Jésus-Christ, que la miséricorde et la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, quand j'usais de toute diligence pour vous écrire de notre commun salut, je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été une fois enseignée aux saints. Car certains hommes se sont glissés parmi les fidèles, inscrits jadis à l'avance pour ce jugement, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Or je désire vous rappeler, à vous qui une fois saviez tout, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, a détruit ensuite ceux qui n'ont pas cru, et qu'il a réservé dans des liens éternels sous l'obscurité pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur origine, mais qui ont abandonné leur propre demeure, comme Sodome et Gomorre, et les villes d'alentour, s'étant abandonnés à la fornication, de la même manière que ceux-là, et étant allés après une autre chair, ils sont là comme exemple, subissant la peine d'un feu éternel. De la même manière, cependant, ces rêveurs aussi souillent la chair et méprisent la domination et injurient les dignités, mais Michel l'archange, qu'en discutant avec le diable, il contestait touchant le corps de Moïse, n'osa pas proférer de jugement injurieux contre lui, mais il dit « Que le Seigneur te censure !» Mais cela, ils injurient tout ce qu'ils ne connaissent pas et se corrompent dans tout ce qu'ils comprennent naturellement comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn et se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. Ceux-ci, ils sont des taches dans vos agapes, faisant des festins avec vous sans crainte, se repaissant eux-mêmes, nués sans eau, emportés par les vents, arbres d'automne, sans fruits, deux fois morts, déracinés, vagues impétueuses de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoiles errantes à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Or Enoch aussi, le septième, depuis Adam, a prophétisé de ceci et dit, voici, le Seigneur est venu au milieu de ses saintes myriades pour exécuter le jugement contre tous et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes leurs œuvres d'impiété qu'ils ont impiement commises et de toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ceux-ci qui sont des murmurateurs, se plaignant de leur sort, marchant selon leur propre convoitise, tandis que leur bouche prononce d'orgueilleux discours, et admirant les hommes en vue de leur propre profit. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, comment ils vous disaient que, à la fin du temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise d'impiété. Ceux-ci sont ceux qui se séparent eux-mêmes des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, conservez-vous dans l'amour de Dieu, attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Et les uns qui contestent, reprenez-les, les autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu, haïssant même le vêtement souillé par la chair. Or à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez et de vous placer irréprochable devant sa gloire avec abondance de joie, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, dès avant tout siècle, et maintenant, et pour tous les siècles. Amen. L'histoire que nous avons lue dans 2 Samuel sur Méphibosheth, c'est un des exemples de la grâce pure. Vraiment, c'est le sujet de cet épisode, et qui effectivement a marqué le début du règne de David, mais qui était particulièrement précieux pour ce Méphibosheth. Mais c'était dans l'Ancien Testament, et le développement, la présentation de la grâce dans l'Ancien Testament n'est pas, on la trouve bien sûr, mais on la trouve pas directement et pleinement et purement. Et alors le passage de Luc et ce que nous avons lu est significatif dans ce que c'est donc, selon l'évangile de Luc, le début du ministère du Seigneur. C'est la nouveauté, c'est lui qui il apporte quelque chose de radicalement nouveau. Et alors les versets que nous avons lus, c'est vraiment la présentation de son ministère à lui, celui qui vient alors purement et totalement en grâce. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres, et pour publier aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, c'est la délivrance complète de toutes les misères. Alors, nous savons que, en fait, et c'est la suite du récit, mais c'était pas le sujet que vous avez devant moi, la suite du récit, c'est que, donc, le ministère du Seigneur a été rejeté, et suite à cette prédication, on l'a mené au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, c'est Luc 4, verset 29. Et puis, le changement radical de ce qu'apportait le Seigneur se manifeste de façon particulièrement nette dans le fait que quand on reprend le passage qu'il a lu dans Ésaïe 61, il s'est arrêté au beau milieu d'un verset. Et le passage de Luc est très net, ayant ployé le livre, il s'est rassis. Il avait fini sa lecture. Il semble qu'il a commenté après, peut-être restant assis, mais la coupure, la suite verset Ésaïe dit que le Seigneur vient dans un esprit, une action de vengeance à cause de l'état du peuple. Alors, ça ne veut pas dire du tout que le Seigneur tronque la parole et que la seconde partie du verset ne s'appliquera pas, mais ça montre que il introduisait l'ère de la grâce nouvelle, complète. La vengeance et les châtiments auront lieu, mais plus tard. Et ne disait pas, bien sûr, il en parlait même pas, il faisait pas une prophétie pour dire quand c'est que la vengeance aura lieu. C'était l'introduction de l'ère de la grâce. Et cette ère de la grâce, c'est donc toute la caractéristique du temps de l'Église, du temps du christianisme qui est celui dans lequel nous sommes. Et alors, il faut être d'autant plus conscient de cela et du tournant dans les voies de Dieu qui va avoir lieu avec la vengeance qui va avoir lieu. Et parce que, disons, un des aspects de notre temps, c'est effectivement, nous sommes dans un temps de déchristianisation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le rejet de la grâce qui a commencé, au fond, dans Luc 4, va s'achever pleinement. Et l'ère de la grâce, avec le christianisme, a cette particularité d'introduire les choses invisibles. C'est la grâce est reçue par la foi, et elle s'occupe de choses invisibles. On trouve ça dans 2 Corinthiens 4, je crois, dans le dernier verset de 2 Corinthiens 4. Et alors, quand la grâce est rejetée, quand le temps de l'Église est fini, alors à ce moment-là, Dieu se réoccupe des choses de la terre, il se réoccupe au fond de continuer la prophétie d'Ésaïe, qui de passer au jour de la vengeance, mais c'est aussi pour cela que, et c'est peut-être, nous sommes dans un temps où il y a les amorces de ces choses, où ce qui se passe en rapport avec Israël et en rapport avec la terre reprend une importance grande, non pas seulement une importance quant à Israël même, mais une importance quand toutes les nations de la terre s'occupent de ça. Et les choses ne sont pas par hasard. et c'est lié à la déchristianisation. Dans ce sens, il y a un passage de l'ère de la grâce au temps où il y aura la vengeance. Mais il ne faut pas me faire dire plus que je n'en dis. Ce n'est pas, nous sommes pas dans un temps où il y a application de la prophétie, où il y a application directe de ces choses, mais il y a une amorce, les choses s'engagent, s'engrènent, l'engrenage de ces choses se lance, et pour le monde, la terre et Israël reprennent de l'importance, et les choses célestes. Mais est-ce que c'est, alors, d'un côté, dans la ruine de l'Église, il y a bien quelque chose, effectivement, de triste et d'humiliant. D'un autre côté, le Seigneur va prendre son Église à lui, mais il va la prendre dans le ciel, les choses célestes prendront toute leur réalité visible à ce moment-là, au fond, nous le verrons face à face, et ce ne sera plus simplement le contempler par la foi. Alors, en face de tout ça, toujours la question se pose, bon ben alors pour nous, qu'est-ce qu'il nous reste, qu'est-ce qu'on a à faire? Et alors c'est là que l'épître de Jude prend une importance extrêmement grande. C'est la dernière épître, et alors c'est une épître qui justement parle de la grâce, parce que il en a bien été, on en a vu quelque chose avec Méphibosheth, on en a vu le lancement avec le Seigneur qui commence son ministère par les présentations de la grâce en Luc 4. Mais alors, effectivement, c'est pas seulement que la grâce est oubliée, mais Jude avait envie d'écrire pour, il dit, pour notre commun salut. Mais notre commun salut, c'est justement la grâce et les privilèges de la grâce. On a parlé de la communion qui fait partie de ces privilèges de la grâce. Et Jude, il avait envie de parler de ça. Et puis, en fait, la situation des temps, la situation de l'époque lui ont fait sentir qu'il fallait aborder un autre sujet. Et alors, qu'est-ce qui caractérisait donc le temps et ce qu'il forçait à changer de sujet? C'était que des gens s'étaient glissés parmi les fidèles. Alors, la notion de glisser, c'est une introduction furtive. C'est pas de façon franche et nette. Ils se sont glissés parmi les fidèles et ils changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Peut-être que le mot dissolution est très habituel, disons qu'on traduit aussi changer la grâce en licence ou en laxisme ou en laisser aller, et disons que dans tous les cas, ça signifie que au lieu d'apprécier la grâce, sa force, son intérêt et son caractère précieux, ben on la tourne en une soi-disant justification de ce qu'on aurait le droit de faire n'importe quoi, puisque de toute façon, à la fin, Dieu pardonne et Dieu fait grâce, donc on peut tout se permettre. C'est ça, tourner la grâce de Dieu en dissolution. Et en fait, il faut se rendre compte que, d'un côté, le sujet de la grâce est tout simple, c'est « crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, et Dieu pardonne à ceux qui ne méritent rien ». Mais en fait, à la fois c'est simple, et à la fois l'homme naturel n'arrive pas à comprendre ça. Comment Dieu peut concilier sa sainteté, sa justice, ses exigences rigoureuses, et en même temps, il fait grâce, il efface les péchés, il pardonne tout. Et alors c'est là où alors l'homme naturel ne comprend pas et il tourne la grâce en dissolution en disant bon ben on peut faire tout ce qu'on veut. Et alors cet épître de Jude montre donc, c'est des exhortations aux fidèles pour justement savoir comment se comporter, comment comprendre les choses, comment saisir les choses dans un temps pareil. Alors, on pourrait dire, mais ça concerne juste un temps très particulier, le temps de la fin de l'ère de la grâce, juste le temps spécial qui était celui de Jude. Et alors, en fait, on est étonné de voir l'étendue, l'ampleur de la portée de cette épître, et qui commence à Caïn, on a ça au verset 11, et qui va jusqu'à la venue du Seigneur en gloire au milieu de ces saintes myriades. Et alors, au fond, c'est une épître qui est toute courte et en même temps qui est d'une ampleur qui recouvre tout, puisqu'elle passe de Caïn à la venue du Seigneur. Et plus exactement, l'apparition en gloire distingue la venue pour enlever l'Église, mais je m'arrête pas à cette question-là. Alors effectivement, ici, il montre d'abord que cette corruption de la grâce, c'est pas d'aujourd'hui. Alors, il y a le chemin de Caïn, mais il mentionne spécialement, il mentionne plusieurs exemples. Alors, au verset 5, le peuple qui a été délivré d'Égypte, d'Israël, et qui a détruit ceux qui n'ont pas cru, en fait, on sait que dans la traversée du désert de 40 ans, il n'y en a que deux qui ont survécu, c'est Caleb et Josué, et que tous les autres sont morts dans le désert. Mais au fond, ils n'ont pas cru, et au fond, il n'y a pas eu la foi qui a saisi la grâce. Et alors, le second exemple, alors, il est parlé donc des anges qui n'ont pas gardé leur origine, qui ont abandonné leur propre demeure, et il fait le parallèle avec ceux de Sodome et Gomorre. Alors, la parole n'en dit pas grand-chose de ça. Il y a deux sortes d'anges qui ont péché. Donc, il y a d'une part les anges qui ont péché avec Satan, et c'est les démons qui se baladent dans le monde. Et Éphésiens 6 nous parle des puissances spirituelles de méchanceté. C'est des démons qui sont encore libres. Le Seigneur les arrêtait dans son ministère. Mais il y en a d'autres, ils sont en prison. C'est 2 Pierre 2 qui nous précise cela. Et c'est ceux dont il est parlé en Genèse 6. Il n'est pas parlé grand chose, il n'est pas dit grand chose. Mais on voit quand même des anges, ils sont qualifiés, désignés par le terme de fils de Dieu, qui se sont abaissés à aller vers les filles des hommes. Alors, c'est très frappant parce que donc il y a les uns qui ont suivi Satan, c'est l'orgueil, et qui ont voulu se faire comme Dieu, et puis ceux de Genèse 6, c'est le contraire, ils sont abaissés au plus bas, au niveau des hommes. Et alors, il est parlé de ceux qui n'ont pas gardé leur origine, verset 7, qui sont allés après une autre chair, ça correspond à ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon complet de ce qu'on avait. Alors, l'abandon de la grâce, ça fait partie de l'apostasie, et l'abandon de son origine fait partie de cette apostasie. Et alors Sodome et Gomorre se ramènent là-dedans, où il y a une similitude avec ces anges qui ont abandonné leur origine de Genèse 6, et Sodome et Gomorre, c'est les péchés, notamment d'homosexualité, tout spécialement, qui sont mis à ce niveau-là, et qui sont la marque de la gravité extrême de l'état de choses, de l'état où se trouve, à l'époque c'était le peuple d'Israël, aujourd'hui c'est le monde, et le monde, y compris le monde religieux. Et alors, cet abandon de ce que Dieu a établi au commencement, parce qu'au fond c'est de ça qu'il s'agit, c'est Dieu institue des choses, il a institué le mariage, il a institué, créé hommes et femmes, il a établi des choses, il a établi l'homme dans sa position, la femme dans sa position, où chacun a gardé sa position. Et c'est pour ça que la position de la femme dans l'assemblée, dont il est parlé en 1 Timothée 2 et en 1 Corinthiens 14, fait partie de ces choses que Dieu a établies. Alors, voilà que, donc, quand il y a l'abandon de ce que Dieu a établi, il ne s'agit pas simplement de pas comprendre la grâce, de méconnaître sa portée, mais on voit qu'il y a un mépris de la domination. Alors, ça, on comprend aussi comme caractéristique de notre temps, où à la fois il y a le côté des autorités qui se dégradent, et à la fois le fait qu'on les dénigre et on les méprise et on ne les respecte plus du tout. On injurie les dignités. Et on voit que, alors il y a cet exemple. Donc, même un archange se gardait d'insulter le diable, il lui résistait. Alors, dans la parole, il est question de résister au diable, il est question de lutte contre les puissances spirituelles. Ça, c'est vrai, mais c'est tout des choses qui se font dans la dignité et non pas avec des insultes, des injures, du mépris de la domination. Alors, les caractéristiques donc du chemin général d'égarement, les trois exemples qui sont retenus, c'est donc Caïn. Alors Caïn, c'est chemin de Caïn, c'est j'apporte à Dieu ce que j'ai envie, même les fruits de la terre maudite, pas de problème, Dieu a qu'à s'en contenter, et c'est Caïn qui décide par lui-même, et puis qui se fâche contre son frère quand il s'aperçoit que son frère a été béni de Dieu. Et ça, c'est le Caïn, celui qui ne tient pas compte de ce que Dieu a dit, de la malédiction sur le sol. L'erreur de Balaam, alors, il est dit pour une récompense. C'était bien la raison, l'argent qui était la raison pour laquelle Balak a fait venir Balaam pour maudire le peuple, mais quand on lit le récit, on voit que Balaam a plusieurs reprises a dit attention, moi je prophétise mais pas pour l'argent. Mais il était malhonnête au dernier degré parce que il était dans un chemin, il était venu pour maudire le peuple pour avoir de l'argent et pour se donner du standing de prophète. Il prétendait que il recherchait pas l'argent. C'était un gros mensonge. Mais on voit le Seigneur, lui, n'avait pas d'argent. C'est que quand on lui a demandé l'impôt des 10 drachmes, il a fallu aller le chercher dans la bouche d'un poisson parce qu'il n'en avait pas, il n'en avait pas sur lui. Et puis, la contradiction de Corée. Alors ça, c'est Corée qui s'insurge des nombres 16, qui s'insurge en face contre Moïse et Aaron, disant, mais tout le peuple c'est le peuple de Dieu, ils ont tous autant de droits, c'est la démocratie dans l'Église, dans le peuple de Dieu, et donc pas question qu'il y ait des dignités ou des conducteurs ou des anciens qui montrent le chemin. C'est la contradiction en face. Dieu sait, il n'en est pas parlé ici, Dieu sait unir le jugement contre Corée avec une grâce extraordinaire qui a été celle des fils de Corée. Je passe. Et alors, on voit que le changement de la grâce de Dieu en dissolution s'accompagne de, ça fait des taches dans les agapes. C'est pas dit qu'il faut pas faire des agapes, mais on voit que les agapes sont déformées, détournées. Et puis, au fond, c'est des gens qui, en prétendant que la grâce de Dieu pardonne tout et qu'il n'y a pas besoin de se faire du souci pour une conduite quelconque, et on voit que ce sont des nuées sans eau, ils ne peuvent pas étancher la soif spirituelle. Et puis, il y a une violence portée par les vents, et puis il y a deux fois mort, c'est la stérilité, il n'y a pas la vie de Dieu. Parce qu'on a parlé de grâce et de communion, et puis de vivre la communion, mais vivre la communion, il y a une action de la vie de Dieu. Alors on aime bien dire, ben oui, on a la vie éternelle, on est sauvé, mais cette vie éternelle, elle se manifeste. C'est la vie éternelle, Jean 17, c'est la communion avec le Fils et avec le Père. Et alors, voilà que il y a cette prophétie d'Enoch, qu'on ne trouve pas dans l'Ancien Testament, que Dieu a donné à Jude de connaître, il n'est pas dit comment, il a connu cette prophétie, et dès ce moment-là, et il y a cette prophétie du Seigneur qui vient exécuter le jugement contre les impies. Alors on aurait tendance à dire, bon bah c'est les cas graves, c'est les impies qui ont des œuvres d'impiété. Mais on voit que ces œuvres d'impiété s'accompagnent de paroles dures. Et les paroles dures, c'est comme quand on accuse Dieu. On dit c'est la faute à Dieu. Dieu permet les choses. Paroles dures, et c'est grave. Et puis alors, le verset 16 met au même rang les murmurateurs. Alors, pour bien saisir les murmurateurs, le livre des Nombres est là où on voit un peu à chaque étape, les murmurateurs, des gens qui se plaignent de leur sort. Dieu nous a pas donné de l'eau, il nous a pas donné de la viande, il nous a fait marcher dans le désert, il a fait ceci, il a fait cela, on murmure. Et alors après, on marche selon ses propres convoitises, parce que quand on se plaint, on murmure contre Dieu, et qu'on a des paroles dures contre lui, eh bien, on marche dans les convoitises, et puis prononce d'orgueilleux discours. Alors, qu'est-ce que c'est la prétention de l'homme qui sait mieux que la parole de Dieu, qui connaît mieux les choses que la parole de Dieu. Et alors, au travers de tout cela, alors, est-ce qu'on va se désoler, dire, bon, on baisse les bras, on fait plus rien, et puis, de toute façon, comme tout tourne à la ruine, c'est pas la peine d'insister. Et alors, c'est pour ça que cette fin d'épître est extraordinairement importante. On voit que il est dit, souvenez-vous des paroles qui ont été dites par les apôtres. Bon, c'est des paroles qui ont été dites par les apôtres, et sur les temps de la fin et sur les temps de ruine, on les trouve spécialement dans 2 Timothée, 2 Pierre, 1er épître de Jean, et puis l'épître de Jude. Et bon, pas question de développer ici et maintenant le contenu de ces épîtres de la fin, mais qu'il nous soit donné d'en méditer les détails dont Jude nous dit, mais il faut se souvenir de ça, c'est ça qu'il faut lire. Et c'est là qu'on trouve les avertissements et les instructions. Et alors, il est parlé de ceux qui se séparent eux-mêmes, c'est dans le verset 19. Alors, il semble que cette question de séparation, elle est abordée dans différentes épîtres et de différentes manières. Il y a ceux qui se séparent en quittant les fidèles. Et puis, dans Jude, il était question, on a bien vu au début, de ceux qui se glissent. Et puis, qu'ils font des festins avec vous sans crainte. C'est-à-dire qu'ils restent parmi les fidèles. Mais ils se séparent en formant des groupes. Des groupes, il y a le terme qu'on trouve ailleurs, je crois que c'est dans 1 Corinthiens, où il est question de Corinthiens peut-être 14, qui est question de constituer des sectes, mais pas sectes au sens actuel français, ou ces trucs autonomes, c'est des groupes qui ont des idées particulières, des façons de voir les choses, terme grec étant les hérésies, mais là aussi c'est pas exactement la pensée n'est pas tellement de fausses doctrines. La pensée c'est de constituer des groupes autonomes de pensée, d'écoles de pensée à l'intérieur des fidèles. C'est de ça qu'il est parlé quand il est question de ceux qui se séparent eux-mêmes, des hommes naturels n'ayant pas l'esprit. Et alors on voit quel est le rôle des fidèles. Alors, prier par le Saint-Esprit, première chose, très frappant ça, c'est prière. Alors on dira, alors bien sûr, et dans Philippiens, il est dit, en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu, selon les difficultés que vous rencontrez, c'est vrai. C'est un peu différent ici, priant par le Saint-Esprit. Disons qu'il faut pas nous tourmenter pour savoir si les prières que nous faisons monter sont par l'Esprit ou pas, mais il faut, au fond, rechercher quand même les sujets pour lesquels il faut prier, les rechercher dans la parole, où le Saint-Esprit nous guidera à cet égard. Et puis, alors j'ai oublié le début du verset 20, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, c'est pas que les réunions d'édification, ça, c'est vous édifiant vous-même, dans les relations mutuelles entre croyants, ou frères ou sœurs, il y a une édification mutuelle qui fait partie de cette communion dont on a qui notre frère a évoqué un peu au début, entre les uns et les autres, il y a cette édification mutuelle, ces prières par l'Esprit. Et alors on se conserve dans l'amour de Dieu, parce que c'est de ça qu'on est occupé, attendant la miséricorde. Pourquoi on attend la miséricorde? Ben, quand on voit toutes les ruines et les catastrophes, ben, on s'attend au Seigneur. Alors, non pas s'attendre au Seigneur en croyant que crac, il va tout régler tout d'un coup, puis les problèmes vont disparaître. Non, on attend sa miséricorde. C'est-à-dire qu'il prend soin de nous au travers des misères. Pour la vie éternelle, c'est jusque-là. Et alors, on va dire, bon ben, je fais ça tranquillement dans mon coin, je reste inactif. Non. Alors, on a ces versets 22 et 23, et les uns qui contestent, alors il y a une répréhension, reprendre quand il y a de la contestation. Il faut pas laisser dire n'importe quoi. Les autres, alors, il faut sauver, il faut avoir de la crainte. Il y a plusieurs choses, au fond, il faut avoir de la crainte et il faut sauver. Il faut arracher hors du feu, dire, cette expression est frappante parce qu'avant, il est question de se glisser parmi les fidèles, de même de faire des agapes pas très heureuses puisqu'il y a des tâches. Mais enfin, il n'y a pas le feu, quoi, quand même. Mais là, au fond, les choses s'aggravent et tournent mal et il y a le feu. Et il y a des âmes, il faut les arracher de là, sortir en les montrant que dans les dangers qu'elles courent. Et puis, sans même le vêtement souillé par la chair, on voit qu'il y a un sentiment de la sainteté de Dieu permanent qu'on a à s'appliquer pour soi-même. Et alors, on va dire, bon ben d'accord, la tâche, c'est ça qu'il faut faire, mais comme d'une part c'est difficile, d'autre part on est faible, alors comment est-ce qu'on va y arriver? On a ces encouragements du verset 24. « Or à celui qui a le pouvoir de vous garder sans que vous bronchiez. » Alors ça, c'est extraordinaire qu'on puisse être gardé sans broncher alors que tout tourne mal. Et puis de nous placer irréprochables sur la terre, non, devant sa gloire. Et ça, avec abondance de joie. Alors ça, c'est cette expression est d'autant plus étonnante que on aurait pu dire, y a que des sujets de tristesse, même non seulement de tristesse parce que on en voit qui sont dans le feu, on en voit qui vont tomber sous la malédiction comme Sodome et Gomorre, comme ceux qui n'ont pas gardé leur origine. Là, on voit ceux qui vont tomber sous le jugement à la venue du Seigneur. On dit, il y a que des catastrophes. Et voilà que le Seigneur, il peut garder les siens irréprochables, devant sa gloire, avec abondance de joie. Alors on dit, mais c'est pas possible ça. Mais c'est la parole qui le dit, faut le recevoir en toute simplicité, faut l'accepter, et puis faut l'accepter, et puis le vivre. Parce que si on l'accepte par la foi, et que on a ses prières par l'esprit, que on s'édifie mutuellement sur... C'est pas seulement s'édifier, juste s'édifier, mais c'est s'édifier sur votre très sainte foi. Cette question de la foi, je n'en ai pas parlé au début à tort, parce que c'est au verset 3. Il est bien dit que Jude écrivait pour exhorter à combattre pour la foi, et la foi qui a été enseignée une fois au saint. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de la foi où on croit de ce... Bien sûr, la foi croit ce que Dieu dit, ça, toujours. Mais il y a la foi, une fois enseignée au saint, c'est l'ensemble de toutes les vérités qui nous ont été enseignées. Et c'est enseigné une fois. Alors, ça veut dire qu'on a tout dans la parole. C'est aussi pour ça, c'est qu'on a ce que, au fond, tout a été regroupé dans les... Les écrits de l'Ancien Testament sont tous regroupés dans l'espace d'une génération, qui ça a été la durée de vie de l'apôtre Jean d'ailleurs, et puis il n'y a plus rien eu après. La foi est enseignée une fois, tout d'un coup, et on a tout, et on l'a encore, et il n'y a pas de révélation progressive comme dans l'Ancien Testament, où les écrits, les livres, les prophéties venaient les uns après les autres. Et alors, on est édifié sur notre très sainte foi. C'est pas seulement la foi, mais une foi très sainte. On voit qu'on a des choses excellentes et des choses précieuses entre les mains. Alors, tout ça, eh ben, c'est pas pesant. C'est avec abondance de joie. Et alors, du coup, ben, ça se termine par la louange et l'adoration à notre Seigneur, au seul Dieu, notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire, majesté, force et pouvoir, mais qui nous soit donné, donc, dans le sentiment que notre temps du christianisme est le temps de la grâce, beaucoup plus vaste que ce que Mephibosheth avait pu voir, et que nous sommes effectivement dans le temps de la fin, c'est-à-dire que la venue du Seigneur au milieu de ses cinq myriades pour exécuter le jugement, c'est la partie du verset d'Ésaïe que le Seigneur a pas lu dans Luc, ça. Alors, on est dans le temps de la patience de Dieu. On dit, mais pourquoi Dieu permet les choses? Et il les permet parce qu'il est patient, et c'est un des aspects de la grâce et de la miséricorde. Alors, il faut pas, justement, cette patience de Dieu, et cette grâce et cette miséricorde, il faut pas en profiter pour justifier qu'on peut faire n'importe quoi. Il faut, au contraire, s'édifier sur notre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit et se conservant dans l'amour de Dieu, et que cela nous amène à une abondance de joie et dans l'adoration.